liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
De l'april.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'april, semaine 50, année 2015. Salut Manu.
Salut Luc.
Alors bientôt la fin de l'année.
Oui, on y arrive à grands pas et on a une grosse revue de presse pour l'occasion. Donc 9 thèmes principaux, ce qui est considérable. Internet et le contrôle, l'open innovation, Apple, la loi numérique, l'état d'urgence, un petit truc sur le FN assez rigolo, l'éducation nationale, Météo France et le Libre, puis un petit truc sur les bidouilles camp.
Libération, Benjamin Lovelock, Internet est toujours rattrapé par l'envers de la liberté, le contrôle. Et c'est une interview menée par Anne-Naëlle Guiton.
Un sujet qu'on a régulièrement ici. Donc Benjamin Lovelock, moi je ne connaissais pas vraiment.
Moi non plus.
Mais il dit des choses très intéressantes sur la manière dont Internet s'est mis en place. Il ne faut pas oublier, c'est en partie des universités, en partie l'armée américaine qui ont lancé ce truc-là. Et que maintenant, bah, c'est quelque chose dont on n'a pas vraiment le contrôle. Il y a trois approches qui sont là-dessus. Donc justement, l'État et le contrôle, les libertariens, on va dire les anarchistes, et le manque de contrôle, et d'autres personnes dans lesquelles le libre se calerait plus, qui essayent d'organiser un petit peu tout ça en autorégulation.
Enfin, qui, alors pas qu'en autorégulation, mais enfin, voilà, qui serait un petit peu le côté raisonnable de l'affaire.
En se basant sur les lois existantes, notamment du droit d'auteur.
Et oui, et c'est la voie qu'il appelle donc libéral constitutionnaliste, qui cite des juristes, etc. Il cite pas directement le libre, mais
non, mais c'est de ça dont il s'agit.
En tout cas que ça...
Parce qu'on faut qu'on le rappelle, hein, ouais. Le libre, donc c'est l'éthique, mais c'est une éthique qui est intéressante parce qu'elle est basée sur des lois et elle est basée sur du juridique. Les licences qui sont au cœur du logiciel libre, ce sont des éléments juridiques. Et ça a évolué pour d'autres domaines, notamment les Creative Commons et encore d'autres pour notamment Wikipédia et toutes ces choses-là.
Tourmag.com, Open Innovation, l'agilité accélérateur d'innovation, un article de Rémi Bain-Touverès. Donc ça, c'est un site sur le tourisme, en fait.
Oui, clairement, ça a l'air d'être quelque chose qui se rapporte à tout un secteur. Et là, il s'agit d'une tribune d'un dirigeant de société qui présente un concept dont on a déjà abordé un peu le sujet, l'Open Innovation, et qui présente ça en opposition aux pratiques actuelles de création, de gestion de projet, notamment.
Mmh. Et donc là, il s'agit d'un système informatique pour organiser des voyages dans le domaine des agences de voyage. Et moi, j'ai lu ça avec beaucoup d'attention parce qu'au boulot, on a un site d'une agence de voyage et ce machin est une horreur. Les données sont bidons, tu ne trouves jamais rien, tu rames, c'est vraiment une vraie galère. En fait, il parle de l'open innovation, donc sortir des ce qu'on appelle les cycles en V, les trucs bien lourdingues.
Les trucs des années 80.
Voilà, hein. Et puis des trucs qui viennent de l'industrie lourde et où effectivement, quand on construit une usine, on n'a pas le droit de se rater. Et je veux bien le croire que, effectivement, dans le tourisme, ce ne soit pas encore arrivé, l'agilité et l'open innovation, parce que quand je vois le truc, je suis un petit peu consterné.
Mais justement, il voilà. Y a des gars qui font évoluer un petit peu le domaine. Et puis, ben, c'est en en parlant à tout un domaine comme le tourisme, que ça peut faire évoluer tout ça.
ZDNet, Apple, un champion de l'open source ? Non, pas encore, un article de Stephen G. Vaughan Nichols.
Alors, il semblerait que c'est une réponse en quelque sorte ou un écho au fait qu'Apple, sur leur site et ailleurs, se sont revendiqués comme étant des champions d'open source et l'entreprise qui faisait le plus d'open source dans les grosses entreprises.
Oui, ils ont même dit qu'ils étaient la première entreprise majeure de l'informatique à faire de l'open source un élément clé de sa stratégie.
Donc, finalement, ça s'est mal passé. Il y a des gens qui leur sont retombés dessus en leur disant que ce sont avant tout des utilisateurs, peut-être même des parasites du libre, et ils ont retiré cette expression et ils ne se présentent plus de la même manière.
Voilà, ils ont mis quelque chose de beaucoup plus soft, et l'article revient dessus, on rappelle que le noyau est à la base du logiciel libre, avec une licence non copyleft, hein, qui permet de tout refermer, de tout remettre sous licence propriétaire.
Et ils ne sont pas gênés de le faire.
Ils ne sont pas gênés de le faire, effectivement, et qui reversent vaguement, qui est un truc qui est censé être libre, où ils balancent du code en vrac, et du coup personne n'arrive à bosser derrière avec, parce que c'est pas structuré, c'est pas fait.
Franchement pas des bons citoyens du
voilà,
libre.
Et que du coup c'était assez malvenu comme prétention. Mais donc voilà, ils ont fait marche arrière.
Et donc, tous ceux qui utilisent du Mac hein, et qui aiment ça, parce que les fanboys notamment, sachez que c'est largement basé sur du logiciel libre.
BFM TV, loi numérique, la force sera-t-elle avec Axel Lemaire, un article de Pascal Samana.
Donc on va passer rapidement parce que ça a été le gros sujet ces dernières semaines.
Oui, il n'y a pas grand-chose de neuf dans l'article sur les sujets dont on a parlé il y a un paquet de temps.
Oui. Ouais, il y a la comparaison avec Star Wars qu'on aime bien parce que c'est aussi le fil directeur de la campagne d'adhésion de l'April, vient de chez nous.
Effectivement, mais il parle pas de nous. En tout cas, il revient un petit peu sur tout ce qu'on a dit, le fait que toutes les propositions qui avaient été faites donc par les communautés, etc., ont été liquidées quasiment dans leur intégralité. Et il avance un petit peu plus sur le côté un peu institutionnel, notamment avec des remarques de députés de l'opposition qui s'intéressent au sujet.
Et qui cassent tout ça, hein, bien sûr.
Et,
voilà.
Et qui dit, en gros, ça va un peu dans tous les sens et qu'on a l'impression qu'elle essaye de faire plaisir à tout le monde. Donc, garantir de la liberté tout en garantissant la surveillance, tout en garantissant ceci, cela.
Et puis, il ne faut pas oublier qu'elle s'est aussi fait piquer une partie du sujet. Hein. Macron il s'est réservé certains domaines pour une prochaine loi que lui va diriger.
Next Impact, état d'urgence après les perquisitions des saisies administratives d'ordinateurs, un article de Marc Ress.
Alors oui, parler de l'état d'urgence en ce moment, on est dedans, donc ça peut nous intéresser déjà globalement. Mais en plus de ça, ça touche le libre et l'informatique. Donc là, notamment pour ce qui est de nous retirer des ordinateurs.
Enfin, surtout l'informatique dans ce cas-là. Next Impact, bien sûr, parle d'informatique. Et ils sont très pointus vraiment sur ces questions juridiques, ils reviennent très 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 souvent.
Et puis l'auteur, hein, Marc Ress notamment, il est vraiment intéressant.
Et donc là, il nous donne un peu tenant et aboutissant de l'état d'urgence du point de vue informatique, en voyant ce qu'ils ont le droit de faire, pas de faire, et en gros ils ont le droit de faire à peu près tout n'importe quoi, et notamment de ramasser tout le matériel informatique.
Voilà, alors il a été question d'interdire des logiciels, notamment Tor, logiciel qui est utilisé par les défenseurs des droits de l'homme dans plein pays.
Donc
c'est
une sorte de réseau chiffré, en tout cas ça permet d'être anonyme sur Internet.
Donc ça fait peur pas mal de gens, il était question aussi d'interdire les points Wi-Fi, mais finalement non, Valls est revenu là-dessus, ça va pas être le cas, il semblerait. On sait pas encore à quelle sauce risque d'être mangé le logiciel et l'informatique en général.
L'Obs, aux électeurs du FN, ton logiciel est écrit par un immigré et il t'emmerde. Un article de Benoît Lecor.
Je me demandais comment t'allais citer ce titre.
En le lisant, tout bêtement. Ça revient sur une affaire qui fait un petit peu de bruit. Et c'est l'auteur d'un logiciel qui s'appelle Don O, je ne sais pas comment ça se prononce.
Un nom d'origine chinoise, il semblerait.
Probablement. Et qui développe un logiciel qui s'appelle Notepad++.
Qui est un logiciel libre.
Qui est un logiciel libre qui ne tourne que sous Windows.
Ah bon, on ne peut pas être parfait.
Et ce logiciel, donc, c'est un logiciel pour écrire du code. Donc, qui facilite l'écriture du code avec ce qu'on appelle des indentations, des couleurs, des machins. Et qui plutôt populaire, et c'est un développeur taïwanais d'origine.
Oui, on voit dans l'article finalement.
Et c'est un logiciel libre, et développé bénévolement, et qui a un certain succès, et donc ce gars profite de l'audience qu'il a
sur
pour
Twitter,
exprimer
ce
qu'il a à dire. Voilà. Et là, il l'a fait sur Twitter, effectivement. Ça fait un peu de vague, notamment des gens sont offusqués du fait qu'il aille porter de la politique dans ce projet.
Tu m'étonnes que ça fait des vagues, ça a même bien gueulé, il s'en est pris pas mal dans les dents, mais il a le droit de donner son opinion, et on rappelle, il ne peut pas, parce que c'est un logiciel libre, en interdire l'usage aussi facilement qu'il le voudrait, parce que tout simplement...
Il peut changer la licence de sa nouvelle version.
Oui, mais pour les nouvelles versions, tu viens de le dire, et bonne chance pour la changer de manière aisée s'il a eu des contributeurs. Le libre nous protège contre un changement de point de vue de son auteur, hein. On est tous libres face à la version actuelle, en tout cas, donc c'est quand même intéressant. Puis rappelons qu'il a quand même le droit d'avoir des opinions et de les exprimer.
Tout à fait, il a fait râler, mais il y a plein de gens qui sont derrière lui aussi.
Oui.
Et par rapport à certaines personnes qui ont râlé, il y a une remarque qui est venue sur Twitter où quelqu'un a dit, mais franchement, Google ne se gêne pas pour payer des lobbyistes professionnels, etc. Et donc, tu voudrais interdire à ce développeur libre d'exprimer ce qu'il a à dire, et lui aussi de faire de la politique. Et ça, je trouvais c'est vraiment très pertinent. Et on oublie qu'effectivement, toutes ces grosses boîtes font de la politique tout le temps, et pour orienter la loi dans leur sens, et qu'il y a un moment, il faut arrêter
d'être naïf. Hein.
D'être naïf, et je trouve ça très bien qu'il exprime ce qu'il a à dire. Mediapart, l'éducation nationale vend nos enfants à Microsoft pour 13 millions. Un article d'Iliane Amar.
Franchement, le titre, c'est un gros troll. Il manque un point d'interrogation à la fin, parce que vendre nos enfants pour 13 millions, c'est pas assez cher, on dirait.
Voilà. Non, c'est pas très cher. Alors, c'est un article, il faut dire, c'est plus un article de blog qu'un article de presse.
C'est un édito, hein, clairement.
Voilà. Et non, mais c'est un blog en plus. L'auteur n'est pas, même pas journaliste, mais il est pas mal, il est bien documenté.
L'image de présentation est géniale.
Oui, il a repris une de ses vieilles images. Où on imaginait l'an 2000 au début du 20e siècle, et avec la machine à apprendre, avec une manivelle et des enfants qui apprennent directement, et un petit logo Microsoft dessus.
Oui, parce que c'est Microsoft qui va nous permettre de mieux apprendre à l'école.
Oui, ça revient sur cette affaire qu'on a évoquée la semaine dernière, celle d'avant aussi, je crois. Donc, un super partenariat passé avec Microsoft pour mettre du Microsoft partout dans les écoles, contre le fait que Microsoft ait investi 13 millions ce qui est une bagatelle par rapport à ce que ça représente.
Oui, mais n'oublie pas, ils vont filer toute leur licence, il semblerait.
Oui, oui, oui.
Il y a une sorte d'accès open bar.
Ah bah c'est certain qu'une fois qu'ils auront habitué tous les élèves à utiliser du Microsoft.
Ah bah c'est la fête pour eux. Là, honnêtement, clairement, ils ont dû faire le forcing pour obtenir ce genre de résultat. Et puis, ça fait plaisir aux dirigeants français parce que ça leur permet de dire que leur politique numérique fonctionne, avance, qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens de leur point de vue. Mais nous, on est super dégoûtés. Il y a plein d'associations qui hurlent à la mort sur ce sujet-là. Et il y a une pétition qui a été lancée.
Voilà, on a lancé une pétition en avril, donc ouverte à tout le monde. Aujourd'hui, il y a quelque chose comme presque 3000 signatures. On a des personnes privées et bien sûr des personnes morales, et notamment des syndicats de profs. Donc, c'est pas juste 3000 personnes dans leur coin. Il y a des institutions qui s'engagent de la même manière que quand on avait lancé cet appel pour l'interopérabilité dans l'éducation. On avait eu comme ça quasiment tous les syndicats de profs qui s'étaient engagés là-dessus. Si vous voulez aller signer cette pétition, allez sur notre site apric.org et parlez-en autour de vous. Journal du net, PostgreSQL, pourquoi Météo France a parié sur l'open source, un article de Michel Edwell.
Donc un article plutôt sympathique.
Ouais, moi je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Il s'agit de une sorte de retour sur un choix qui a été fait par Météo France il y a 10 ans, et pour utiliser PostgreSQL, qui est un système de base de données libre.
Voilà, un équivalent, on va dire, à des choses comme Oracle, ou SQL Server, ou MySQL. C'est du pur libre, et moi c'est ma base de données préférée, hein. Clairement je l'utilise dans la plupart des projets que je fais, parce que c'est vraiment quelque chose très solide et de pérenne.
Et là, ils expliquent pourquoi ils avaient fait ce choix il y a 10 ans, où je suppose que le truc n'était peut-être pas aussi développé qu'aujourd'hui, donc c'était peut-être un choix un peu
risqué,
courageux,
hein,
voilà.
Forcément. Oui.
Et donc ils disent qu'en fait, ils ne voulaient pas sacrifier la performance, et avec ces bases de données, ils font des choses exigeantes, puisqu'il s'agit finalement de compiler millions et des milliards de données météo.
Carrément, ils ont
après
des trucs,
ça, aller les mouliner dans des supercalculateurs, etc., pour faire toutes les recherches en météo.
Météo France, honnêtement, c'est eux qui ont les plus gros calculateurs, avec l'armée qui a besoin de simuler des bombes atomiques, hein. La météo, c'est des trucs énorme, gigantesque.
Donc là, on est vraiment dans des applications très très pointues, et ils ont fait ce choix-là pour plusieurs raisons, et notamment parce que, un, ils ont besoin de se projeter dans l'avenir, c'est qu'eux, ils travaillent sur le long terme, donc il faut qu'ils puissent continuer à accéder à leurs données.
Et aussi d'accéder aux données passées,
voilà,
et les plus lointains possibles, donc ils jettent rien, de ce qu'on comprend en tout cas.
Et donc là, comme c'est du libre, ça leur permet d'avoir la main sur leur système et d'être certain que dans 10, 20, 30 ans, ils auront toujours le code source pour faire toutes les adaptations et tout ce dont ils auront besoin. Ça leur permet également de monter en taille sans avoir de mauvaises surprise au niveau de la facturation.
Sans devoir demander l'autorisation à qui que ce soit.
Oui, et puis ils expliquent ça, et toi tu connais bien, que les éditeurs propriétaires, ils aiment bien changer les conditions.
Ah,
un coup, on paye sur le nombre de processeurs, un coup sur la RAM, un coup sur le nombre d'utilisateurs.
C'est juste un truc affreux, et ils ont le droit à tout moment de débarquer chez toi pour faire un audit et vérifier que tu suis leurs conditions.
Voilà, donc du coup, quand on est sur 10 ans, bah, on peut se dire, bah, ça se trouve, dans 5 ans, ils vont mettre en place des conditions de facturation qui vont être extrêmement défavorables, ou l'évolution que je veux faire va être trop chère, etc. Donc on se retrouve dépendant d'un éditeur propriétaire qui va changer sa façon de facturer en fonction de son bon vouloir. Là, c'est du libre, on maîtrise tout, on n'a pas de licence à payer, donc c'est pas tant pour faire des économies, parce que derrière il faut quand même des compétences et des choses comme ça, on le dit toujours, le libre n'est pas gratuit, mais au moins on a la maîtrise, on a de la visibilité, et là je trouve que c'est vraiment une très très belle illustration.
Ah ouais,
et de montrer que c'est pas juste
ça, hein.
On économise les licences, c'est pas ça le sujet.
Sachant qu'ils font même de l'innovation, parce qu'en fait ils commencent à utiliser des systèmes d'information géographique, et PostgreSQL est à la pointe dans ces domaines-là. Ils ont des évolutions à la base de données pour gérer les coordonnées donc, sur la planète. Donc, c'est particulièrement approprié. Et bah, Météo France, ils ont l'air d'y contribuer de manière assez forte.
France 3, COP21, la bidouille Amis du climat, un article de Sophie Talois.
Alors, il s'agit de Bidouille Camp, et il semblerait qu'il y en a pas mal qui se mettent en place en France. Il y en a eu 17 déjà cette année, donc c'est une association qui s'est constituée.
Voilà, j'ai participé une fois à un Open Bidouille Camp, c'est comme ça que ça s'appelle, et donc c'est plus du côté hacking, DIY, le do-it-yourself, et bon, l'article en parle, il pose les bases, et il montre ce que fait cette association avec une petite interview de la créatrice.
Un encouragement à y aller.
Hein,
donc tous ceux qui sont motivés pour aller bidouiller, c'est un bon lieu pour faire ça.
Voilà, moi j'ai fait une animation radio pour montrer comment on utilise des logiciels libres pour faire de la radio. Et c'était très sympa, j'avais eu des gamins assez rigolos. Et donc allez-y, c'est vraiment, vraiment sympa.
Bon, bah sur ce, je te dis à la semaine prochaine.
Et bien à la semaine prochaine tout le monde.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'APRIL, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fiévet et Nicolas Vineau.